Régis Warnier, bonjour, très heureux de vous retrouver. En mai dernier, je vous ai croisé au Festival de Cannes, où vous étiez venu présenter Est Ouest, un film qui était sorti en 99, c'était au cinéma de la plage.
Ouais, ouais.
Et vous étiez aussi à Cannes, jury en 2002. Avec David Lynch comme président.
Ouais.
Agnès Varda en 2013,
ouais.
Pour la Caméra d'Or.
Ouais.
Festival de Cannes, ça représente quoi pour vous?
Bah, je vais dire des choses très, très, très évidentes. Je crois que c'est le plus grand festival de cinéma au monde. D'ailleurs, je crois que personne ne lui conteste cette position-là. En plus, il est bien placé parce qu'il est le premier du printemps. Venise, c'est début d'été, et Saint-Sébastien, c'est début d'automne. Donc, en général, quand il est le premier dans la liste, si les films sont prêts, ils vont à Cannes, quoi. Il y a ça. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les pays, il y a toutes les filmographies. Et là, pour tous les goûts, Thierry Frémaux a élargi la sélection. Il a créé des sections comme Cannes Première,
Minuit.
Oui, Projection de Minuit, ça, c'est un bouton, ça existe. Mais Cannes Première, c'est que ce sont des films qu'ils mettraient pas en sélection officielle, mais dont ils pensent qu'ils sont intéressants, qu'ils sont des films plus grand public, mais réussis. Donc, il y a en Première, il y a Cannes, il y en a une autre... Voilà, donc finalement ça arrose beaucoup, et puis surtout c'est un rendez-vous Alors moi, ce qui me gêne un peu, mais ça on n'y est pour rien, hein, c'est vrai que c'est le monde qu'il y a, c'est donc les barrières, donc la sécurité, donc
ça c'est pire en pire. Hein.
Ouais,
d'un festival à l'autre, vous vous trouvez donc maintenant président du jury du festival de films historiques à Waterloo. L'histoire, vous êtes un féru dans votre quotidien, vous lisez beaucoup de...
Je suis toujours intéressé à l'histoire, voilà, disons que je la préfère à l'actualité, voilà, parce que c'est un... L'histoire, quand même, c'est quand on a un peu les éléments, le recul, la distance, on a une perspective et on comprend mieux comment les choses se sont passées. Mais j'ai du mal avec l'actualité à laquelle on n'échappe pas, parce qu'on est dedans tous les jours. C'est qu'on est un peu trimballé dans un tourbillon dont on ne voit pas toujours les tenants, les aboutissants, les causes, les directions. Donc, je me méfie de l'actualité parce qu'elle est en plus maintenant avec les chaînes d'information, que ce soit radio ou télévision, elle est commentée en permanence. C'est-à-dire qu'on a même pas le temps de souffler, qu'il y a déjà des commentaires et que le lendemain les commentaires ne sont plus valables. Donc j'aime l'histoire parce qu'elle permet le recul, et puis finalement on voit les grandes lignes, voilà. Mais bon, il y a des gens qui eux se sentent mieux dans l'actualité parce qu'ils peuvent agir chaque jour, ils se sentent plus vivants. Mais l'histoire, c'est une science vivante, hein.
Une autre de vos passions, c'est l'Est, ou plus généralement l'Orient, quand on pense au Cambodge du temps des aveux, de l'Indochine des années 30, et plus récemment Taïwan avec La Réparation, un film qui est sorti en avril avec Lovie Cornillac et Julia Donenès. Y a-t-il des raisons particulières pour que vous soyez pris par...
Simplement que moi j'ai l'impression que... j'ai l'impression qu'aujourd'hui il se passe beaucoup plus de choses passionnantes et intéressantes vers en tout cas même le lointain Est, vers l'Orient, que quand on dit l'Ouest, ça a toujours été les États-Unis, de toute façon ça a toujours, c'est l'Amérique. Et je trouve que ce soit au point de vue politique, artistique, sociétal, environnemental, tout ce genre de choses, moi j'attends moins de l'Amérique, j'attends moins pas des révélations, mais des réflexions possibles. En plus, l'Amérique, on finit par... Ça va de plus en plus vite. On finit par... dès qu'il y a une création américaine, elle arrive chez nous dans les 6 mois ou dans l'année, que ce soit la bouffe, les fringues, les films. Enfin, je veux dire, ça va extrêmement vite. On est reliés, quoi. Et je trouve qu'en Asie, d'ailleurs, qu'il y a des pays très différents, hein, mais je trouve qu'en Asie, je trouve que c'est beaucoup plus...
Des découvertes.
Oui, ouais, des découvertes, puis des modes de pensée, des modes de réflexion, du respect. J'aime bien aller en Asie, puis en fait, ce que j'aime bien dans l'Asie, je m'y perds pas vraiment, mais j'aime bien m'y perdre, j'aime bien ne pas forcément parler la langue, errer, regarder. Aux États-Unis, je suis dans le coup, parce que je comprends, je lis l'anglais, je parle, donc ce que j'aime bien en Asie, c'est il y a un risque d'être un peu perdu, Et je trouve ça
agréable,
plus intéressant, quoi, plus vivant que de. En Amérique, tout est balisé, quoi. On sait où on fout les pieds.
Vous êtes plus Far East que Far West, et pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, on vous aime bien, Indochine, qui a quand même remporté un Oscar.
Ouais.
Il est où, votre
Oscar? Je suis le producteur. Pas grave.
Golden Globe, et puis il y a votre ami Brian De Palma.
Oui.
85, vous êtes toujours en contact avec lui?
De moins qu'avant, parce qu'il se balade, lui, en Europe, un peu partout. Mais oui, on a... Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, en fait, autour d'un interview que j'avais fait de lui, quoi.
Pour Studio?
Oui, qui s'était mal passé, parce qu'il n'en avait rien à foutre de moi. Alors que c'est supposé être un échange. De toute façon, c'est pas de votre faute. Je lui dis, moi, j'ai pas fait grand chose. Donc, je lui ai dit qu'il avait été assez grossier, que je regrettais de l'avoir rencontré, mais je n'ai pu voir ses films. Et il m'a rattrapé par le col, il m'a fait asseoir, et on a refait l'interview qui a duré 3 heures, et qui était le plus bel interview qu'il ait jamais eu, je crois. Et après, on est resté copains, il m'a sauté dessus à Toronto, à la projection d'Indochine, en me disant, qui a fait la musique? Je veux le musicien qu'il a pris pour l'impasse, pour Carlitos Way. Patrick Doyle, il m'a demandé de lui faire un casting d'actrice pour Mission Impossible. Il a choisi Emmanuel Béard. Voilà, en plus, on a eu une relation artistique, quoi, qui était intéressante.
Vous avez, je suppose, eu pas mal de propositions en Amérique. Qu'est-ce qui vous a empêché de travailler? Ce sont les conditions qui ne vous conviennent
pas? Oui, bah, d'abord, on me proposait des choses un peu de goût européen. Et moi, si on m'avait proposé un film américain clé en main, avec le scénario écrit, des acteurs engagés, faire mon boulot de metteur en scène, ça m'aurait intéressé. Puis vraiment mon montage, et après je rentre chez moi, voilà, à l'américaine, quoi, employée par les studios. Mais là, c'était des films où vous trouvez plutôt les conditions en Europe, je l'ai écrit, je voyais pas très bien la différence. Et puis De Palma et d'autres m'ont dit...
C'est pas pour toi.
Non, ils m'ont dit, le final cut, tu l'auras pas, c'est le producteur qui a la main, vous êtes mieux en Europe, tu vas perdre ton temps, voilà. Donc, je sais pas, bon, si on m'avait proposé un sujet intéressant sur Saint-Exupéry, mais la vision que les Américains m'avaient dit que Saint-Exupéry était une vision très, très naïve, très, œcuménique, et je leur ai dit, mais c'est pas ça, Saint-Exupéry, c'est pas du tout ce personnage-là, donc finalement, on ne s'est pas entendu sur le scénario avec Disney.
En parlant de cinéma américain, bon, l'année dernière à Hollywood, ça a été la grève, scénaristes, les acteurs, à cause notamment de l'intelligence artificielle. Et on peut se demander si les Américains sont plus pessimistes que les Européens, ou si ce sont les Européens qui ne prennent pas vraiment conscience du réel danger.
Non, il y a pas. Je crois qu'il faut élargir. Il n'y a pas que le cinéma, l'IA. On ne peut pas raisonner que par le cinéma. J'ai lu tout à l'heure quelqu'un qui disait l'IA l'IA c'est comme le jour pour les agriculteurs, on trouvait la moissonneuse batteuse, quoi. Voilà, il y a une machine qui fait des choses et qui les fait bien, et l'IA elle est quand même nourrie par des données, et je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, je crois que les gens n'en parlent pas, mais je pense qu'aujourd'hui énormément de gens utilisent l'IA sans nous le dire, mais dans tous les domaines, hein. Voilà, les cabinets d'avocats, la presse, la recherche, tout le monde utilise l'IA.
Dans ce monde,
peu de gens le disent. Mmh. Voilà.
Vous êtes scénariste, mais vous êtes aussi auteur. On cite le prix d'excellence en 2018, La dernière vie de Julia B en 2022. Ça répond à un besoin ou un plaisir différent?
Souffler un peu par rapport au cinéma, où c'est toujours des longues aventures, parce qu'il faut, il y a l'écriture, la recherche, les repérages, le financement, qui est toujours difficile. C'est un long chemin. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai du temps, et si j'allais plus vite, et si je faisais quelque chose tout de suite? Donc j'ai écrit tout de suite. Ça a quand même pris, je sais pas, au moins 1 an et demi, le premier roman, mais c'est normal. Le suivant a été écrit plus vite. Voilà, et puis passer aussi le plaisir de l'écriture, le plaisir de l'invention des personnages. Donc et c'est vrai qu'on, dans les scénarios, on les invente, mais on a des règles. Le scénario impose des règles, pas de psychologie, pas de détour, enfin en principe. Mais ce que j'aime bien dans le livre, c'est qu'on peut faire une digression, voilà, on la garde ou pas, mais en tout cas le flow, on se restreint pas, quoi. Il y a une liberté dans l'écrit dans laquelle on fait un choix et un tri. Mais c'est ça que j'aimais bien, c'était le flux, la liberté.
Julia B, est-ce qu'elle est parente à Norma Desmond de Somerset?
Oui, à sa manière, oui, sauf si c'est aujourd'hui, quoi, mais c'est aujourd'hui, mais d'ailleurs, sauf qu'elle est en retard, justement, et il y a un gamin de 20 ans, à peine, qui va lui expliquer que ce qu'elle n'a plus au cinéma, elle peut le récupérer sur les réseaux. Voilà, il y a d'autres moyens de communication, voilà. Si elle est en danger financièrement et sur plein de plans, lui explique que sa notoriété peut être utilisée, on peut recréer un mythe sur des réseaux.
Si vous deviez l'adapter au cinéma, vous penseriez à Catherine Deneuve ?
Non. Mais c'est un mélange de toutes les actrices...
Que vous avez rencontrées ?
Oui, même celles que je connais que dans la vie et pas avec qui j'ai pas travaillé, mais... Non, je la voyais plutôt, je l'ai décrite plutôt brune, grande, non, Catherine aurait pu le faire, mais... Non, c'est pas elle. Enfin, c'est bon. Il y a forcément des souvenirs d'elle, des moments, mais c'est pas forcément. C'est, je pensais à une actrice différente. Je pense plus du côté de Fanny Ardant, par exemple.
Ah oui. Voilà. Adapter un ouvrage comme vous l'avez fait avec Suzanne Hill, Fred Varga ou François Bilot, l'anthropologue. Est-ce que c'est plus facile que de débuter d'une page blanche?
C'est plus facile parce que. Après, on travaille, mais vous avez une histoire où vous avez déjà les personnages. Les personnages existent. Vous n'avez pas à les nourrir, à les créer. Ils existent, ils sont là, il y a une histoire, un début, milieu.
Des contraintes, quand même, non?
Oui. Et puis oui, mais en même temps, si vous prenez les droits du livre, c'est que vous aimez l'histoire. Et les personnages sont campés. Voilà. Après, il faut se débarrasser de tout ce qui est jolie écriture et remettre le livre à plat avec la suite des événements et des épisodes et voir ce qu'on en fait. Parce qu'il y a, c'est ce qu'a fait l'auteur certainement, mais que son écriture a habillé ou transformé. Mais nous, il faut qu'on reparte avec un autre langage, quoi. Mais c'est, je sais pas que c'est rassurant, mais de toute façon, vous êtes en compagnie des personnages tout de suite, quoi.
Vous avez débuté avec des monstres du cinéma, Jean Brol, Deville, Francis Giraud. Est-ce qu'ils vous inspirent encore?
Je ne pose pas la question comme ça. Oui, c'est marrant parce que sur la réparation, que la première partie française, la partie bretonne du film, beaucoup me disaient, tiens, on dirait qu'on est dans un film de Charol.
C'est inconscient?
Non, mais un restaurant étoilé, la province, une partie de chasse. Enfin, les gens disaient, tiens, ça ressemble un peu à du Chabrol.
Autre passion, le sport.
Oui, enfin, l'athlétisme surtout.
Ouais, et la ligne droite, cœur d'athlète. Vous en pratiquez?
Moins, parce que le dos me rattrape. Le bobo au dos me rattrape, mais j'ai couru pendant au moins 35 ans. Oui. J'ai fait du jogging, là, je peux plus. Mais je marche, il faut bien sortir la chienne. Je nage beaucoup. Voilà. Là, j'ai une maison en Bretagne, donc j'essaie de nager, quand je suis là, j'essaie de nager au moins 5 mois de l'année.
Ah oui.
Sans combinaison. Du 15 mai au 15 octobre. Au moins, un bain par jour, c'est pas mal.
Ouais. Président du jury, vous êtes quel type de président, autoritaire, consensuel?
Ça dépend des films, des jurys, il n'y a pas de réel, non, mais j'aime bien qu'on évoque tous les films, voilà. J'aime pas qu'on écarte les... Si on les écarte, faut d'abord qu'on en ait parlé, quoi. Voilà.
Régis, un grand merci, donc, et bon séjour à Waterloo.
Oui, on est bien ici.